Le rouge et le noir, chapitre 40. La reine Marguerite. Amour, dans quelle folie ne parviens-tu pas à nous faire trouver du plaisir? Lettre d'une religieuse portugaise. Julien relut ses lettres. Quand la cloche du dîner se fit entendre, « Combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne !» se dit-il. Quelle folie de lui dire réellement ce à quoi je pensais. Mais peut-être folie pas si grande, la vérité dans cette occasion était digne de moi. Pourquoi aussi venir m'interroger sur des choses intimes? Cette question est indiscrète de sa part. Elle a manqué d'usage. Mes pensées sur Danton ne font point partie du service pour lequel son père me paye. En arrivant dans la salle à manger, Julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de Mademoiselle de la Mole, qui le frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en noir. Après dîner, il se trouva tout à fait débarrassé de l'accès d'enthousiasme qui l'avait obsédé toute la journée. Par bonheur, l'académicien qui savait le latin était de ce dîner. « Voilà l'homme qui se moquera le moins de moi, » se dit Julien. Si, comme je le présume, ma question sur le deuil de Mademoiselle de la Mole est une gaucherie. Mathilde le regardait avec une expression singulière. Voilà bien la coquetterie des femmes de ce pays, telle que Madame de Rênal me l'avait peinte, se dit Julien. Je n'ai pas été aimable pour elle ce matin, je n'ai pas cédé à la fantaisie qu'elle avait de causer, j'en augmente de prix à ses yeux. « Sans doute le diable n'y perd rien. Plus tard, sa hauteur dédaigneuse saura bien se venger. Je la mets à pifère. Quelle différence avec ce que j'ai perdu! Quel naturel charmant! Quelle naïveté! Je savais ses pensées avant elle. Je les voyais naître. Je n'avais pour antagonisme, dans son cœur, que la peur de la mort de ses enfants. C'était une affection raisonnable et naturelle. » Aimable même pour moi qui en souffrais. J'ai été un sot. Les idées que je me faisais de Paris m'ont empêché d'apprécier cette femme sublime. Quelle différence, grand Dieu! Et qu'est-ce que je trouve ici? De la vanité sèche et hautaine, toutes les nuances de l'amour-propre et rien de plus. On se levait de table. « Ne laissons pas engager mon académicien, » se dit Julien. Il s'approcha de lui comme on passait au jardin, prit un air doux et soumis et partagea sa fureur contre le succès d'Hernani. « Si nous étions encore au temps des lettres de cachet, » dit-il. « Alors il n'eût pas osé !» s'écria l'académicien avec un geste à la Talma. À propos d'une fleur, Julien cita quelques mots des Géorgiques de Virgile, et trouva que rien n'était égal au vers de l'abbé de Lille. En un mot, il flatta l'académicien de toutes les façons. Après quoi, de l'air le plus indifférent, « Je suppose, lui dit-il, que Mademoiselle de la Mole a hérité de quelque oncle dont elle porte le deuil. »« Quoi? Vous êtes de la maison ? » dit l'académicien en s'arrêtant tout court. « Et vous ne savez pas sa folie ?» Au fait, il est étrange que sa mère lui permette de telles choses. Mais entre nous, ce n'est pas précisément par la force du caractère qu'on brille dans cette maison. Mademoiselle Mathilde en a pour eux tous et les mène. C'est aujourd'hui le 30 avril. Et l'académicien s'arrêta en regardant Julien d'un air fin. Julien sourit de l'air le plus spirituel qu'il put. Quel rapport peut-il y avoir entre mener toute une maison, « porter une robe noire et le 30 avril, » se disait-il. « Il faut que je sois encore plus gauche que je ne le pensais. »« Je vous avouerai, » dit-il à l'académicien, et son œil continuait à interroger. « Faisons un tour de jardin, » dit l'académicien, entrevoyant avec ravissement l'occasion de faire une longue narration élégante. « Quoi, est-il bien possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574 ?»« Et où ?» dit Julien étonné. « En place de grève. » Julien était si étonné que ce mot ne le mit pas au fait. la curiosité, l'attente d'un intérêt tragique si en rapport avec son caractère, lui donnait ces yeux brillants qu'un narrateur aime tant à voir chez la personne qui écoute. L'académicien, ravi de trouver une oreille vierge, raconta longuement à Julien comme quoi, le 30 avril 1574, le plus joli garçon de son siècle, Boniface de la Mole, et Annibal de Coconasso, gentilhomme piémontais, son ami, avaient eu la tête tranchée en place de Grève. La Mole était l'amant adoré de la reine Marguerite de Navarre. Et remarquez, ajouta l'académicien, que mademoiselle de la Mole s'appelle Mathilde Marguerite. La Mole était en même temps le favori du duc d'Alençon et l'intime ami du roi de Navarre, depuis Henri IV, mari de sa maîtresse. Le jour du Mardi Gras de cette année 1574, la cour se trouvait à Saint-Germain, avec le pauvre roi Charles IX qui s'en allait mourant. La Mole voulut enlever les princes, ses amis, que la reine Catherine de Médicis retenait comme prisonniers à la cour. Il fit avancer 200 chevaux sous les murs de Saint-Germain, le duc d'Alençon eut peur, et la Mole fut jetée au bourreau. Mais ce qui touche mademoiselle Mathilde, ce qu'elle m'a avoué elle-même il y a 7 à 8 ans, quand elle en avait 12, car c'est une tête, une tête. Et l'académicien leva les yeux au ciel. Ce qui l'a frappé dans cette catastrophe politique, c'est que la reine Marguerite de Navarre, cachée dans une maison de la place de Grève, osa faire demander au bourreau la tête de son amant. Et la nuit suivante, à minuit, elle prit cette tête dans sa voiture et alla l'enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de Montmartre. « Est-il possible ? » s'écria Julien touché. « Mademoiselle Mathilde méprise son frère, parce que, comme vous le voyez, il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne et ne prend point le deuil de 30 avril. C'est depuis ce fameux supplice, et pour rappeler l'amitié intime de la Mole pour Coconasso, lequel Coconasso, comme un Italien qu'il était, s'appelait Annibal, que tous les hommes de cette famille portent ce nom. Et, ajouta l'académicien en baissant la voix, ce Coconasso fut, au dire de Charles IX lui-même, l'un des plus cruels assassins du 24 août 1572. Mais comment est-il possible, mon cher Sorel, que vous ignoriez ces choses, vous, le commensal de cette maison? Voilà donc pourquoi, deux fois à dîner, mademoiselle de la Mole a appelé son frère Annibal. Je croyais avoir mal entendu. C'était un reproche. Il est étrange que la marquise souffre de telles folies. Le mari de cette grande fille en verra de belles. » Ce mot fut suivi de 5 ou 6 phrases satiriques. La joie et l'intimité qui brillaient dans les yeux de l'académicien choquèrent Julien. « Nous voici 2 domestiques occupés à médire de leur maître, » pensa-t-il. « Mais rien ne doit étonner de la part de cet homme d'académie. » Un jour, Julien l'avait surpris au genou de la marquise de la Mole. Il lui demandait une recette de tabac pour un neveu de province. Le soir, une petite femme de chambre de mademoiselle de la Mole, qui faisait la cour à Julien, comme jadis Élisa, lui donna cette idée que le deuil de sa maîtresse n'était point pris pour attirer les regards. Cette bizarrerie tenait au fond de son caractère. Elle aimait réellement ce la Mole, amant aimé de la reine la plus spirituelle de son siècle et qui mourut pour avoir voulu rendre la liberté à ses amis. Et quels amis ! Le premier prince du sang et Henri IV. Accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de madame de Rênal, Julien ne voyait qu'affectation dans toutes les femmes de Paris. Et pour peu qu'il fût disposé à la tristesse, ne trouvait rien à leur dire. Mademoiselle de la Mole fit exception. Il commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de cœur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien. il eut de longues conversations avec mademoiselle de la Mole, qui, quelquefois, après dîner, se promenait avec lui dans le jardin, le long des fenêtres ouvertes du salon. Elle lui dit un jour qu'elle lisait l'histoire de Daubigné et Brantôme. « Singulière lecture !» pensa Julien. « Et la marquise ne lui permet pas de lire les romans de Walter Scott. » Un jour, elle lui raconta, avec ses yeux brillants de plaisir, qui prouvent la sincérité de l'admiration, ce trait d'une jeune femme du règne de Henri III qu'elle venait de lire dans « Les mémoires de l'étoile ». Trouvant son mari infidèle, elle le poignarda. L'amour-propre de Julien était flatté. Une personne environnée de tant de respect et qui, au dire de l'académicien, menait toute la maison, daignait lui parler d'un air qui pouvait presque ressembler à de l'amitié. « Je m'étais trompé, » pensa bientôt Julien. « Ce n'est pas de la familiarité. Je ne suis qu'un confident de tragédie. C'est le besoin de parler. Je passe pour savant dans cette famille. Je m'en vais lire Brantôme, Daubigné, l'étoile. Je pourrais contester quelques-unes des anecdotes dont me parle mademoiselle de la Mole. Je veux sortir de ce rôle de confident passif. » Peu à peu, ses conversations avec cette jeune fille, d'un maintien si imposant et en même temps si aisé, devinrent plus intéressantes. Il oubliait son triste rôle de plébéien révolté. Il la trouvait savante et même raisonnable. Ses opinions dans le jardin étaient bien différentes de celles qu'elle avouait au salon. Quelquefois, elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formaient un contraste parfait avec sa manière d'être ordinaire, si altière et si froide. Les guerres de la Ligue sont les temps héroïques de la France, lui disait-elle un jour, avec des yeux étincelants de génie et d'enthousiasme. Alors, chacun se battait pour obtenir une certaine chose qu'il désirait, pour faire triompher son parti, et non pas pour gagner platement une croix, comme du temps de votre empereur. Convenez qu'il y avait moins d'égoïsme et de petitesse. J'aime ce siècle. » Et Boniface de la Mole en fut le héros, lui dit-il. Du moins il fut aimé, comme peut-être il est doux de l'être. Quelle femme actuellement vivante n'aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité? Madame de la Mole appela sa fille. L'hypocrisie, pour être utile, doit se cacher. Et Julien, comme on voit, avait fait à mademoiselle de la Mole une demi-confidence sur son admiration pour Napoléon. « Voilà l'immense avantage qu'ils ont sur nous, » se dit Julien, resté seul au jardin. L'histoire de leurs aïeux les élève au-dessus des sentiments vulgaires, et ils n'ont pas toujours à songer à leur subsistance. « Quelle misère !» ajoutait-il avec amertume. « Je suis indigne de raisonner sur ces grands intérêts. Ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie, parce que je n'ai pas 1000 francs de rente pour acheter du pain. » « À quoi rêvez-vous là, monsieur ?» lui dit Mathilde qui revenait en courant. Julien était las de se mépriser. Par orgueil, il dit franchement sa pensée. Il rougit beaucoup en parlant de sa pauvreté à une personne aussi riche. Il chercha à bien exprimer par son ton fier qu'il ne demandait rien. Jamais il n'avait semblé aussi joli à Mathilde. Elle lui trouva une expression de sensibilité et de franchise qui souvent lui manquait. À moins d'un mois de là, Julien se promenait, pensif, dans le jardin de l'hôtel de la Mole, mais sa figure n'avait plus la dureté et la roguerie philosophique qui imprimaient le sentiment continu de son infériorité. Il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon mademoiselle de la Mole, qui prétendait s'être fait mal aux pieds en courant avec son frère. Elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière, se disait Julien. Suis-je un fat ou serait-il vrai qu'elle a du goût pour moi? Elle m'écoute d'un air si doux, même quand je lui avoue toutes les souffrances de mon orgueil, elle qui a tant de fierté avec tout le monde. On serait bien étonné au salon si on lui voyait cette physionomie. Très certainement, cet air doux et bon, elle ne l'a avec personne. Julien cherchait à ne pas s'exagérer cette singulière amitié. Il la comparait lui-même à un commerce armé. Chaque jour, en se retrouvant, avant de reprendre le ton presque intime de la veille, on se demandait presque « Serons-nous aujourd'hui amis ou ennemis ?» Julien avait compris que se laisser offenser impunément une seule fois par cette fille si hautaine, c'était tout perdre. « Si je dois me brouiller, ne vaut-il pas mieux que ce soit de prime abord, en défendant les justes droits de mon orgueil, qu'en repoussant les marques de mépris dont serait bientôt suivi le moindre abandon de ce que je dois à ma dignité personnelle ?» Plusieurs fois, en des jours de mauvaise humeur, Mathilde essaya de prendre avec lui le ton d'une grande dame. Elle mettait une rare finesse à ses tentatives, mais Julien les repoussait rudement. Un jour, il l'interrompit brusquement. « Mademoiselle de la Mole a-t-elle quelque ordre à donner au secrétaire de son père ?» lui dit-il. « Il doit écouter ses ordres et les exécuter avec respect. Mais du reste, il n'a pas un mot à lui adresser. Il n'est point payé pour lui communiquer ses pensées. » Cette manière d'être et les singuliers doutes qu'avait Julien firent disparaître l'ennui qu'il trouvait régulièrement dans ce salon si magnifique, mais où l'on avait peur de tout et où il n'était convenable de plaisanter de rien. « Il serait plaisant qu'elle m'aimât !»« Qu'elle m'aime ou non, continuait Julien, j'ai pour confidente intime une fille d'esprit, devant laquelle je vois trembler toute la maison, et plus que tous les autres, le marquis de Croisenois. Ce jeune homme, si poli, si doux, si brave, et qui réunit tous les avantages de naissance et de fortune, dont un seul me mettrait le cœur si à l'aise. Il en est amoureux fou, il doit l'épouser. Que de lettres monsieur de la Mole m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat. Et moi, qui me voici subalterne, la plume à la main, 2 heures après, ici, dans le jardin, je triomphe de ce jeune homme si aimable. Car enfin, les préférences sont frappantes, directes. Peut-être aussi, elle hait en lui un mari futur. Elle a assez de hauteur pour cela. Et les bontés qu'elle a pour moi, je les obtiens à titre de confident subalterne. Mais non, ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche. Ceci pourrait être un parti pris, une affectation, mais je vois ses yeux s'animer quand je parais à l'improviste. Les femmes de Paris savent-elles feindre à ce point? Que m'importe? J'ai l'apparence pour moi, jouissons des apparences. Mon Dieu, qu'elle est belle! Que ses grands yeux bleus me plaisent, vus de près, et me regardant comme ils le font souvent. Quelle différence de ce printemps-ci à celui de l'année passée, quand je vivais malheureux et me soutenant à force de caractère, au milieu de ces 300 hypocrites méchants et sales. J'étais presque aussi méchant qu'eux. Dans les jours de méfiance, cette jeune fille se moque de moi, pensait Julien. Elle est d'accord avec son frère pour me mystifier, mais elle a l'air de tellement mépriser le manque d'énergie de ce frère. Il est brave, et puis c'est tout, me dit-elle. Il n'a pas une pensée qui ose s'écarter de la mode. C'est toujours moi qui suis obligée de prendre sa défense. Une jeune fille de 19 ans. À cet âge, peut-on être fidèle à chaque instant de la journée à l'hypocrisie qu'on s'est prescrite? D'un autre côté, quand mademoiselle de la Mole fixe sur moi ses grands yeux bleus avec une certaine expression singulière, toujours le comte Norbert s'éloigne. Ceci m'est suspect. Ne devrait-il pas s'indigner de ce que sa sœur distingue un domestique de leur maison? Car j'ai entendu le duc de Chaulnes parler ainsi de moi. À ce souvenir, la colère remplaçait tout autre sentiment. Est-ce amour du vieux langage chez ce duc maniaque? Eh bien, elle est jolie, continuait Julien avec des regards du tigre. Je l'aurai, je m'en irai ensuite, et malheur à qui me troublera dans ma fuite. Cette idée devint l'unique affaire de Julien. Il ne pouvait plus penser à rien autre chose. Ses journées passaient comme des heures. À chaque instant, cherchant à s'occuper de quelque affaire sérieuse, sa pensée abandonnait tout, et il se réveillait un quart d'heure après, le cœur palpitant, la tête troublée et rêvant de cette idée. M'aime-t-elle ? Chapitre 41. L'empire d'une jeune fille. J'admire sa beauté, mais je crains son esprit. Mérimée. Si Julien eut employé à examiner ce qui se passait dans le salon, le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, ou à se passionner contre la hauteur naturelle à sa famille, qu'elle oubliait pour lui, il eut compris en quoi consistait son empire sur tout ce qui l'entourait. Dès qu'on déplaisait à Mademoiselle de la Mole, elle savait punir par une plaisanterie si mesurée, si bien choisie, si convenable en apparence, lancée si à propos, que la blessure croissait à chaque instant, plus on y réfléchissait. Peu à peu, elle devenait atroce pour l'amour-propre offensé. Comme elle n'attachait aucun prix à bien des choses qui étaient des objets de désir sérieux pour le reste de la famille, elle paraissait toujours de sang-froid à leurs yeux. Les salons de l'aristocratie sont agréables à citer, quand on en sort, mais voilà tout. La politesse toute seule n'est quelque chose par elle-même que les premiers jours. Julien l'éprouvait. Après le premier enchantement, le premier étonnement. La politesse, se disait-il, n'est que l'absence de la colère que donneraient les mauvaises manières. Mathilde s'ennuyait souvent. Peut-être se fut-elle ennuyée partout. Alors, aiguiser une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir. C'était peut-être pour avoir des victimes un peu plus amusantes que ses grands-parents, que l'académicien et les 5 ou 6 autres subalternes qui leur faisaient la cour, qu'elle avait donné des espérances au marquis de Croisenois, au comte de Caylus et 2 ou 3 autres jeunes gens de la première distinction. Ils n'étaient pour elle que de nouveaux objets d'épigramme. Nous avouerons avec peine, car nous aimons Mathilde, qu'elle avait reçu des lettres de plusieurs d'entre eux et leur avait quelquefois répondu. Nous nous hâtons d'ajouter que ce personnage fait exception aux mœurs du siècle. Ce n'est pas en général le manque de prudence que l'on peut reprocher aux élèves du noble couvent du Sacré-Cœur. Un jour, le marquis de Croisenois rendit à Mathilde une lettre assez compromettante qu'elle lui avait écrite la veille. Il croyait, par cette marque de haute prudence, avancer beaucoup ses affaires. Mais c'était l'imprudence que Mathilde aimait dans ses correspondances. Son plaisir était de jouer son sort. Elle ne lui adressa pas la parole de 6 semaines. Elle s'amusait des lettres de ces jeunes gens. Mais, suivant elle, toutes se ressemblaient. C'était toujours la passion la plus profonde, la plus mélancolique. « Ils sont tous le même homme parfait, prêt à partir pour la Palestine, » disait-elle à sa cousine. « Connaissez-vous quelque chose de plus insipide ? Voilà donc les lettres que je vais recevoir toute la vie. Ces lettres-là ne doivent changer que tous les 20 ans, suivant le genre d'occupation qui est à la mode. » Elles devaient être moins décolorées du temps de l'Empire. Alors tous ces jeunes gens du grand monde avaient vu ou fait des actions qui, réellement, avaient de la grandeur. Le duc de N, mon oncle, a été à Wagram. Quel esprit faut-il pour donner un coup de sabre, et quand cela leur est arrivé, ils en parlent si souvent ? Dit Mademoiselle de Sainte-Hérédité, la cousine de Mathilde. « Eh bien, ces récits me font plaisir. Être dans une véritable bataille, une bataille de Napoléon où l'on tuait 10 000 soldats, cela prouve du courage. S'exposer au danger élève l'âme et la sauve de l'ennui où mes pauvres adorateurs semblent plonger. Et il est contagieux, cet ennui. Lequel d'entre eux a l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire ? Ils cherchent à obtenir ma main, la belle affaire. » Je suis riche et mon père avancera son gendre. Ah, put-il en trouver un qui fût un peu amusant ? La manière de voir vite, nette, pittoresque de Mathilde gâtait son langage, comme on voit. Souvent, un mot d'elle faisait tache aux yeux de ses amis si polis. Il se serait presque avoué, si elle eût été moins à la mode, que son parler avait quelque chose d'un peu coloré pour la délicatesse féminine. Elle, de son côté, était bien injuste envers les jolis cavaliers qui peuplent le bois de Boulogne. Elle voyait l'avenir non pas avec terreur, c'eût été un sentiment vif, mais avec un dégoût bien rare à son âge. Que pouvait-elle désirer ? La fortune, la haute naissance, l'esprit, la beauté à ce qu'on disait et à ce qu'elle croyait, tout avait été accumulé sur elle par les mains du hasard. Voilà quelles étaient les pensées de l'héritière la plus enviée du faubourg Saint-Germain, quand elle commença à trouver du plaisir à se promener avec Julien. Elle fut étonnée de son orgueil. Elle admira l'adresse de ce petit bourgeois. « Il saura se faire évêque, comme l'abbé Maury, » se dit-elle. Bientôt, cette résistance sincère et non jouée avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées, l'occupa. Elle y pensait. Elle racontait à son amie les moindres détails des conversations et trouvait que jamais elle ne parvenait à en bien rendre toute la physionomie. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer !» se dit-elle un jour avec un transport de joie incroyable. « J'aime ! J'aime ! C'est clair ! À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations si ce n'est dans l'amour ? J'ai beau faire, je n'aurai jamais d'amour pour Croisenois, Quélus et Tutti Quanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être. Enfin, il m'ennuie. » Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut. La nouvelle Héloïse, les lettres d'une religieuse portugaise, etc. Il n'était question, bien entendu, que de la grande passion. L'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France du temps de Henri III et de Bassompierre. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Quel malheur pour moi qu'il n'y ait pas une cour véritable comme celle de Catherine de Médicis ou de Louis XIII. Je me sens au niveau de tout ce qu'il y a de plus hardi et de plus grand. Que ne ferais-je pas d'un roi homme de cœur, comme Louis XIII soupirant à mes pieds ? Je le mènerais en Vendée, comme dit si souvent le baron de Tolly, et de là, il reconquérerait son royaume. Alors, plus de charte. Et Julien me seconderait. Que lui manque-t-il ? Un nom et de la fortune. Il se ferait un nom, il acquerrait de la fortune. Rien ne manque à Croisenois. Et il ne sera toute sa vie qu'un duc à demi ultra, à demi libéral, un être indécis, toujours éloigné des extrêmes, et par conséquent, se trouvant le second partout. Quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend ? C'est quand elle est accomplie qu'elle semble possible aux êtres du commun. Oui, c'est l'amour avec tous ses miracles qui va régner dans mon cœur. Je le sens au feu qui m'anime. Le ciel me devait cette faveur. Il n'aura pas en vain accumulé sur un seul être tous les avantages. Mon bonheur sera digne de moi. Chacune de mes journées ne ressemblera pas froidement à celle de la veille. Il y a déjà de la grandeur et de l'audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale. Voyons, continuera-t-il à me mériter ? À la première faiblesse que je vois en lui, je l'abandonne. Une fille de ma naissance, et avec le caractère chevaleresque que l'on veut bien m'accorder, c'était un mot de son père, ne doit pas se conduire comme une sotte. N'est-ce pas là le rôle que je jouerais si j'aimais le marquis de Croisenois ? J'aurais une nouvelle édition du bonheur de mes cousines que je méprise si complètement. je sais d'avance tout ce que me dirait le pauvre marquis, tout ce que j'aurais à lui répondre. Qu'est-ce qu'un amour qui fait bâiller? Autant voudrait être dévote. J'aurais une signature de contrat comme celle de la cadette de mes cousines, où les grands-parents s'attendriraient, si pourtant ils n'avaient pas d'humeur à cause d'une dernière condition introduite la veille dans le contrat par le notaire de la partie adverse. Chapitre 42. Serait-ce un Danton? Le besoin d'anxiété, tel était le caractère de la belle Marguerite de Valois, ma tante, qui bientôt épousa le roi de Navarre, que nous voyons de présent régner en France, sous le nom de Henri IV. Le besoin de jouer formait tout le secret du caractère de cette princesse aimable. De là, ses brouilles et ses raccommodements avec ses frères dès l'âge de 16 ans. Or, que peut jouer une jeune fille? Ce qu'elle a de plus précieux, sa réputation, la considération de toute sa vie. Mémoire du duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX. Entre Julien et moi, il n'y a point de signature de contrat, point de notaire. Tout est héroïque, tout sera fils du hasard. À la noblesse près qui lui manque, c'est l'amour de Marguerite de Valois pour le jeune Lamolle, l'homme le plus distingué de son temps. Est-ce ma faute à moi si les jeunes gens de la cour sont de si grands partisans du « convenable » et pâlissent à la seule idée de la moindre aventure un peu singulière? Un petit voyage en Grèce ou en Afrique est pour eux le comble de l'audace. Et encore, ne savent-ils marcher qu'en troupe? Dès qu'ils se voient seuls, ils ont peur, non de la lance du bédouin, mais du ridicule, et cette peur les rend fous. Mon petit Julien, au contraire, n'aime à agir que seul. Jamais dans cet être privilégié, la moindre idée de chercher de l'appui et du secours dans les autres. Il méprise les autres. C'est pour cela que je ne le méprise pas. Si, avec sa pauvreté, Julien était noble, mon amour ne serait qu'une sottise vulgaire, une mésalliance plate. Je n'en voudrais pas. Il n'aurait point ce qui caractérise les grandes passions, l'immensité de la difficulté à vaincre et la noire incertitude de l'événement. Mademoiselle de la Mole était si préoccupée de ses beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter, elle vantait Julien au marquis de Croisenois et à son frère. Son éloquence alla si loin qu'elle les piqua. « Prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie, » s'écria son frère. « Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. » Elle se garda de répondre et se hâta de plaisanter son frère et le marquis de Croisenois sur la peur que leur faisait l'énergie. Ce n'est au fond que la peur de rencontrer l'imprévu, que la crainte de rester court en présence de l'imprévu. « Toujours, toujours, messieurs, la peur du ridicule, monstre qui par malheur est mort en 1816. »«
Il n'y a plus de ridicule, » disait monsieur de la Mole, « dans un pays où il y a deux partis. »
Sa fille avait compris cette idée. « Ainsi, messieurs, » disait-elle aux ennemis de Julien, « vous aurez eu bien peur toute votre vie, et après on vous dira
« Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. »
Mathilde les quitta bientôt. Le mot de son frère lui faisait horreur. Il l'inquiéta beaucoup, mais dès le lendemain, elle y voyait la plus belle des louanges. Dans ce siècle où toute énergie est morte, son énergie leur fait peur. « Je lui dirai le mot de mon frère. Je veux voir la réponse qu'il y fera. Mais je choisirai un des moments où ses yeux brillent. » Alors il ne peut me mentir.
Ce serait un Danton,
ajouta-t-elle après une longue et indistincte rêverie. Eh bien, la révolution aurait recommencé. Quel rôle joueraient alors Croisenois et mon frère? Il est écrit d'avance. La résignation sublime. Ce seraient des moutons héroïques, se laissant égorger sans mot dire. Leur seule peur en mourant serait encore d'être de mauvais goût. Mon petit Julien brûlerait la cervelle aux Jacobins qui viendraient l'arrêter
pour peu qu'il eût l'espérance de se sauver. Il n'a pas peur d'être de mauvais goût, lui. »
Ce dernier mot la rendit pensive. Il réveillait de pénibles souvenirs et lui ôta toute sa hardiesse. Ce mot lui rappelait les plaisanteries de messieurs de Quélus, de Croisenois, de Luz et de son frère. Ces messieurs reprochaient unanimement à Julien l'air prêtre, humble et hypocrite.
« Mais, reprit-elle tout à coup, l'œil brillant de joie, l'amertume et la fréquence de leurs plaisanteries prouvent, en dépit d'eux, que c'est l'homme le plus distingué que nous ayons vu cet hiver. Qu'importent ses défauts, ses ridicules? Il a de la grandeur et ils en sont choqués. Eux, d'ailleurs, si bons et si indulgents. Il est sûr qu'il est pauvre et qu'il a étudié pour être prêtre. Eux sont chefs d'escadron et n'ont pas eu besoin d'études. C'est plus commode. »
Malgré tous les désavantages de son éternel habit noir et de cette physionomie de prêtre, qu'il lui faut bien avoir, le pauvre garçon, sous peine de mourir de faim. Son mérite leur fait peur, rien de plus clair. Et cette physionomie de prêtre, il ne l'a plus dès que nous sommes quelques instants seuls ensemble. Et quand ces messieurs disent un mot qu'ils croient fin et imprévu, leur premier regard n'est-il pas pour Julien? Je l'ai fort bien remarqué. Et pourtant ils savent bien que jamais ils ne leur parlent à moins d'être interrogés. Ce n'est qu'à moi qu'il adresse la parole. Il me croit l'âme haute. Il ne répond à leurs objections que juste autant qu'il faut pour être poli. Il tourne au respect tout de suite. Avec moi, il discute des heures entières. Il n'est pas sûr de ses idées tant que j'y trouve la moindre objection. Enfin, tout cet hiver, nous n'avons pas eu de coup de fusil. Il ne s'est agi que d'attirer l'attention par des paroles. Eh bien, mon père, homme supérieur, et qui portera loin la fortune de notre maison, respecte Julien. Tout le reste le hait. Personne ne le méprise que les dévotes amies de ma mère. » Le comte de Quélus avait ou feignait une grande passion pour les chevaux. Il passait sa vie dans son écurie et souvent y déjeunait. Cette grande passion, jointe à l'habitude de ne jamais rire, lui donnait beaucoup de considération parmi ses amis. C'était l'aigle de ce petit cercle. Dès qu'il fut réuni le lendemain derrière la bergère de Madame de la Mole, Julien n'étant point présent, M. de Quélus, soutenu par Croisenois et par Norbert, attaqua vivement la bonne opinion que Mathilde avait de Julien, et cela sans à propos, et presque au premier moment où il vit Mademoiselle de la Mole. Elle comprit cette finesse d'une lieue et en fut charmée. « Les voilà tous ligués, se dit-elle, contre un homme de génie qui n'a pas 10 louis de rente et qui ne peut leur répondre qu'autant qu'il est interrogé. Ils en ont peur sous son habit noir. » Que serait-ce avec des épaulettes? Jamais elle n'avait été plus brillante. Dès les premières attaques, elle couvrit de sarcasmes plaisants Quélus et ses alliés. Quand le feu des plaisanteries de ses brillants officiers fut éteint, que demain quelques hobereaux des montagnes de la Franche-Comté, dit-elle à M. de Quélus, s'aperçoivent que Julien est son fils naturel et lui donnent un nom et quelques milliers de francs. Dans 6 semaines, il a des moustaches comme vous, messieurs. Dans 6 mois, il est officier de hussards comme vous, messieurs. Et alors, la grandeur de son caractère n'est plus un ridicule. Je vous vois réduit, monsieur le duc futur, à cette ancienne mauvaise raison, la supériorité de la noblesse de cour sur la noblesse de province. Mais que vous restera-t-il si je veux vous pousser à bout? Si j'ai la malice de donner pour père à Julien un duc espagnol, prisonnier de guerre à Besançon du temps de Napoléon, et qui, par scrupule de conscience, le reconnaît à son lit de mort. » Toutes ces suppositions de naissance non légitimes furent trouvées d'assez mauvais goût par messieurs de Quélus et de Croisenois. Voilà tout ce qu'ils virent dans le raisonnement de Mathilde. Quelque dominé que fût Norbert, les paroles de sa sœur étaient si claires
qu'il prit un air grave qui allait assez mal, il faut l'avouer, à sa physionomie souriante et bonne. Il osa dire quelques mots. « Êtes-vous malade, mon ami ?» lui répondit Mathilde d'un petit air sérieux. « Il faut que vous soyez bien mal pour répondre à des plaisanteries par de la morale. »
« De la morale, vous ? Est-ce que vous sollicitez une place de préfet ?»
Mathilde oublia bien vite l'air piqué du comte de Caylus, l'humeur de Norbert et le désespoir silencieux de monsieur de Croisenois. Elle avait à prendre un parti sur une idée fatale qui venait de saisir son âme. « Julien est assez sincère avec moi, se dit-elle. À son âge, dans une fortune inférieure, malheureux comme il l'est par une ambition étonnante, on a besoin d'une amie. Je suis peut-être cette amie, mais je ne lui vois point d'amour. Avec l'audace de son caractère, il m'eût parlé de cet amour. Cette incertitude, cette discussion avec soi-même, qui dès cet instant occupa chacun des instants de Mathilde, et pour laquelle, à chaque fois que Julien lui parlait, elle se trouvait de nouveaux arguments, chassa tout à fait ces moments d'ennui auxquels elle était tellement sujette. Fille d'un homme d'esprit qui pouvait devenir ministre et rendre ses bois au clergé, Mademoiselle de la Mole avait été, au couvent du Sacré-Cœur, l'objet des flatteries les plus excessives. Ce malheur jamais ne se compense. On lui avait persuadé qu'à cause de tous ses avantages de naissance, de fortune, etc., elle devait être plus heureuse qu'une autre. C'est la source de l'ennui des princes et de toute leur folie. Mathilde n'avait point échappé à la funeste influence de cette idée. Quelque esprit qu'on ait, l'on n'est pas en garde, à 10 ans, contre les flatteries de tout un couvent, et aussi bien fondé en apparence. Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. Tous les jours, elle se félicitait du parti qu'elle avait pris de se donner une grande passion. « Cet amusement a bien des dangers, » pensait-elle. « Tant mieux, 1000 fois tant mieux. » Sans grande passion, j'étais languissante d'ennui au plus beau moment de la vie, de 16 ans jusqu'à 20. J'ai déjà perdu mes plus belles années. Obligée pour tout plaisir à entendre déraisonner les amis de ma mère, qui, à Koblenz, en 1792, n'étaient pas tout à fait, dit-on, aussi sévères que leurs paroles d'aujourd'hui. C'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui. Il trouvait bien un redoublement de froideur dans les manières du comte Norbert, et un nouvel accès de hauteur dans celle de messieurs de Caylus, de Luz et de Croisenois. Il y était accoutumé. Ce malheur lui arrivait quelquefois à la suite d'une soirée où il avait brillé plus qu'il ne convenait à sa position. Sans l'accueil particulier que lui faisait Mathilde et la curiosité que tout cet ensemble lui inspirait, il eût évité de suivre au jardin ces brillants jeunes gens à moustache. Lorsque les après-dîners, ils y accompagnaient Mademoiselle de la Mole. « Oui, il est impossible que je me le dissimule, » se disait Julien. « Mademoiselle de la Mole me regarde d'une façon singulière. Mais même quand ses beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang-froid et de méchanceté. Est-il possible que ce soit là de l'amour? Quelle différence avec les regards de Madame de Rênal! » Une après-dînée, Julien, qui avait suivi Monsieur de la Mole dans son cabinet, revenait rapidement au jardin. Comme il approchait sans précaution du groupe de Mathilde, il surprit quelques mots prononcés très haut. Elle tourmentait son frère. Julien entendit son nom prononcé distinctement 2 fois. Il parut. Un silence profond s'établit tout à coup, et l'on fit de vains efforts pour le faire cesser. Mademoiselle de la Mole et son frère étaient trop animés pour trouver un autre sujet de conversation. Messieurs de Caylus, de Croisenois, de Luz et un de leurs amis parurent à Julien d'un froid de glace. Il s'éloigna.
Chapitre 43. Un complot. Des propos décousus, des rencontres par effet du hasard, se transforment en preuve de la dernière évidence aux yeux de l'homme à imagination s'il a quelque feu dans le cœur. Schiller. Le lendemain, il surprit encore Norbert et sa sœur qui parlaient de lui. À son arrivée, un silence de mort s'établit, comme la veille. Ses soupçons n'eurent plus de bornes. Ces aimables jeunes gens auraient-ils entrepris de se moquer de moi? Il faut avouer que cela est beaucoup plus probable, beaucoup plus naturel qu'une prétendue passion de Mademoiselle de La Mole pour un pauvre diable de secrétaire. D'abord, ces gens-là ont-ils des passions? Mystifié est-il leur fort? Ils sont jaloux de ma pauvre petite supériorité de parole. Être jaloux est encore un de leurs faibles. Tout s'explique dans ce système. Mademoiselle de La Mole veut me persuader qu'elle me distingue, tout simplement pour me donner en spectacle à son prétendu. Ce cruel soupçon changea toute la position morale de Julien. Cette idée trouva dans son cœur un commencement d'amour qu'elle n'eut pas de peine à détruire. Cet amour n'était fondé que sur la rare beauté de Mathilde, ou plutôt sur ses façons de reine et sa toilette admirable. En cela, Julien était encore un parvenu. Une jolie femme du grand monde est, à ce qu'on assure, ce qui étonne le plus un paysan homme d'esprit quand il arrive aux premières classes de la société. Ce n'était point le caractère de Mathilde qui faisait rêver Julien les jours précédents. Il avait assez de sens pour comprendre qu'il ne connaissait point ce caractère. Tout ce qu'il en voyait pouvait n'être qu'une apparence. Par exemple, pour tout au monde, Mathilde n'aurait pas manqué la messe un dimanche. Presque tous les jours, elle y accompagnait sa mère. Si, dans le salon de l'hôtel de La Mole, quelqu'un prudent oubliait le lieu où il était et se permettait l'allusion la plus éloignée à une plaisanterie contre les intérêts vrais ou supposés du trône ou de l'hôtel, Mathilde devenait à l'instant d'un sérieux de glace. Son regard, qui était si piquant, reprenait toute la hauteur impassible d'un vieux portrait de famille. Mais Julien s'était assuré qu'elle avait toujours dans sa chambre un ou deux des volumes les plus philosophiques de Voltaire. Lui-même volait souvent quelques tomes de la belle édition si magnifiquement reliée. En écartant un peu chaque volume de son voisin, il cachait l'absence de celui qui l'emportait. Mais bientôt, il s'aperçut qu'une autre personne lisait Voltaire. Il eut recours à une finesse de séminaire. Il plaça quelques petits morceaux de crin sur les volumes qu'il supposait pouvoir intéresser Mademoiselle de La Mole. Ils disparaissaient pendant des semaines entières. Monsieur de La Mole, impatienté contre son libraire qui lui envoyait tous les « faux mémoires », chargea Julien d'acheter toutes les nouveautés un peu piquantes. Mais, pour que le venin ne se répandît pas dans la maison, le secrétaire avait l'ordre de déposer ses livres dans une petite bibliothèque placée dans la chambre même du marquis. Il eut bientôt la certitude que pour peu que ces livres nouveaux fussent hostiles aux intérêts du trône et de l'hôtel, ils ne tardaient pas à disparaître. Certes, ce n'était pas Norbert qui les lisait. Julien, s'exagérant cette expérience, croyait à Mademoiselle de La Mole la duplicité de Machiavel. Cette scélératesse prétendue était un charme à ses yeux, presque l'unique charme moral qu'elle eut. L'ennui de l'hypocrisie et des propos de vertu le jetait dans cet excès. Il excitait son imagination plus qu'il n'était entraîné par son amour. C'était après s'être perdu en rêverie sur l'élégance de la taille de Mademoiselle de La Mole, sur l'excellent goût de sa toilette, sur la blancheur de sa main, sur la beauté de son bras, sur la disinvoltura de tous ses mouvements, qu'il se trouvait amoureux. Alors, pour achever le charme, il la croyait une Catherine de Médicis. Rien n'était trop profond ou trop scélérat pour le caractère qu'il lui prêtait.
C'était l'idéal des Mazion, des Frilair et des Castanèdes, par lui admiré dans sa jeunesse. C'était en un mot, pour lui, l'idéal de Paris. Y eut-il jamais rien de plus plaisant que de croire de la profondeur ou de la scélératesse au caractère parisien? Il est possible que ce trio se moque de moi, pensait Julien. On connaît bien peu son caractère si l'on ne voit pas déjà l'expression sombre et froide que prirent ses regards en répondant à ceux de Mathilde. Une ironie amère repoussa les assurances d'amitié que mademoiselle de la Mole, étonnée, osa hasarder deux ou trois fois. Piqué par cette bizarrerie soudaine, le cœur de cette jeune fille, naturellement froid, ennuyé, sensible à l'esprit, devint aussi passionné qu'il était dans sa nature de l'être. Mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil dans le caractère de Mathilde, et la naissance d'un sentiment qui faisait dépendre d'un autre tout son bonheur fut accompagnée d'une sombre tristesse. Julien avait déjà assez profité depuis son arrivée à Paris pour distinguer que ce n'était pas là la tristesse sèche de l'ennui. Au lieu d'être avide, comme autrefois, de soirées, de spectacles et de distractions de tout genre, elle les fuyait. La musique chantée par des Français ennuyait Mathilde à la mort. Et cependant, Julien, qui se faisait un devoir d'assister à la sortie de l'opéra, remarqua qu'elle s'y faisait mener le plus souvent qu'elle pouvait. Il crut distinguer qu'elle avait perdu un peu de la mesure parfaite qui brillait dans toutes ses actions. Elle répondait quelquefois à ses amis par des plaisanteries outrageantes à force de piquante énergie. Il lui sembla qu'elle prenait en guignon le marquis de Croisenois. « Il faut que ce jeune homme aime furieusement l'argent pour ne pas planter là cette fille, si riche qu'elle soit !» pensait Julien. Et pour lui, indigné des outrages faits à la dignité masculine, il redoublait de froideur envers elle. Souvent, il alla jusqu'aux réponses peu polies. Quelque résolu qu'il fût à ne pas être dupe des marques d'intérêt de Mathilde, elles étaient si évidentes de certains jours, et Julien, dont les yeux commençaient à se dessiller, la trouvait si jolie, qu'il en était quelquefois embarrassé. L'adresse et la longanimité de ces jeunes gens du grand monde finiraient par triompher de mon peu d'expérience, se dit-il. Il faut partir et mettre un terme à tout ceci. Le marquis venait de lui confier l'administration d'une quantité de petites terres et de maisons qu'il possédait dans le Bas-Languedoc. Un voyage était nécessaire. Monsieur de la Mole y consentit avec peine. Excepté pour les matières de haute ambition, Julien était devenu un autre lui-même. Au bout du compte, ils ne m'ont point attrapé, se disait Julien en préparant son départ. Que les plaisanteries que mademoiselle de la Mole fait à ces messieurs soient réelles ou seulement destinées à m'inspirer de la confiance, je m'en suis amusé. S'il n'y a pas conspiration contre le fils du charpentier, mademoiselle de la Mole est inexplicable. Mais elle l'est pour le marquis de Croisenois, du moins autant que pour moi. Hier, par exemple, son humeur était bien réelle, et j'ai eu le plaisir de faire bouquer par ma faveur un jeune homme aussi noble et aussi riche que je suis gueux et plébéien. Voilà le plus beau de mes triomphes. Il m'aiguera dans ma chaise de poste, en courant les plaines du Languedoc. Il avait fait de son départ un secret. Mais Mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter Paris le lendemain et pour longtemps. Elle eut recours à un mal de tête fou qu'augmentait l'air étouffé du salon. Elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes Norbert, le marquis de Croisenois, Quélus de Luz et quelques autres jeunes gens qui avaient dîné à l'hôtel de la Mole qu'elle les força de partir. Elle regardait Julien d'une façon étrange. « Ce regard est peut-être une comédie, » pensa Julien. « Mais cette respiration pressée, mais tout ce trouble !»« Bah !» se dit-il. « Qui suis-je pour juger de toutes ces choses ? Il s'agit ici de ce qu'il y a de plus sublime et de plus fin parmi les femmes de Paris. Cette respiration pressée qui a été sur le point de me toucher, elle l'aura étudiée chez Léontine Fay, qu'elle aime tant. » Ils étaient restés seuls. La conversation languissait, évidemment. « Non, Julien ne sent rien pour moi, » se disait Mathilde, vraiment malheureuse. Comme il prenait congé d'elle, elle lui serra le bras avec force. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi, » lui dit-elle d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Cette circonstance toucha sur le champ Julien. « Mon père, » continua-t-elle, « a une juste estime pour les services que vous lui rendez. Il faut ne pas partir demain. Trouvez un prétexte. » Et elle s'éloigna en courant. Sa taille était charmante. Il était impossible d'avoir un plus joli pied. Elle courait avec une grâce qui ravit Julien. Mais devinerait-on à quoi fut sa seconde pensée après qu'elle eut tout à fait disparu? Il fut offensé du ton impératif avec lequel elle avait dit ce mot « il faut ». Louis XV aussi, au moment de mourir, fut vivement piqué du mot « il faut » maladroitement employé par son premier médecin. Et Louis XV pourtant n'était pas un parvenu. Une heure après, un laquais remit une lettre à Julien. C'était tout simplement une déclaration d'amour. « Il n'y a pas trop d'affectation dans le style, » se dit Julien, cherchant par ses remarques littéraires à contenir la joie qui contractait ses joues et le forçait à rire malgré lui. « Enfin, moi !» s'écria-t-il tout à coup, la passion étant trop forte pour être contenue. « Moi, pauvre paysan, j'ai donc une déclaration d'amour d'une grande dame !»« Quant à moi, ce n'est pas mal, » ajouta-t-il en comprimant sa joie le plus possible. « J'ai su conserver la dignité de mon caractère. Je n'ai point dit que j'aimais. » Il se mit à étudier la forme des caractères. Mademoiselle de la Mole avait une jolie petite écriture anglaise. Il avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au délire. « Votre départ m'oblige à parler. Il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. » Une pensée vint frapper Julien comme une découverte. Interrompre l'examen qu'il faisait de la lettre de Mathilde et redoubler sa joie. « Je l'emporte sur le marquis de Croisenois !» s'écria-t-il. « Moi, qui ne dis que des choses sérieuses. Et lui est si joli. Il a des moustaches, un charmant uniforme. Il trouve toujours à dire, juste au moment convenable, un mot spirituel et fin. » Julien eut un instant délicieux. Il errait à l'aventure dans le jardin, fou de bonheur. Plus tard, il monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la Mole, qui heureusement n'était pas sorti. Il lui prouva facilement, en lui montrant quelques papiers marqués arrivés de Normandie, que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc. « Je suis bien aise que vous ne partiez pas, » lui dit le marquis quand ils eurent fini de parler d'affaires. « J'aime à vous voir. » Julien sortit. Ce mot le gênait. « Et moi, je vais séduire sa fille. Rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de Croisenois, qui fait le charme de son avenir. S'il n'est pas duc, du moins sa fille aura un tabouret. » Julien eut l'idée de partir pour le Languedoc, malgré la lettre de Mathilde, malgré l'explication donnée au marquis. Cet éclair de vertu disparut bien vite. « Que je suis bon !» se dit-il. « Moi, plébéien, avoir pitié d'une famille de ce rang. Moi, que le duc de Chaulnes appelle un domestique. Comment le marquis augmente-t-il son immense fortune? En vendant de la rente, quand il apprend au château qu'il y aura le lendemain apparence de coup d'État. Et moi, jeté au dernier rang par une providence marâtre, moi à qui elle a donné un cœur noble et pas 1000 francs de rente, c'est-à-dire pas de pain, exactement parlant, pas de pain, moi, refuser un plaisir qui s'offre, une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement ? Ma foi, pas si bête. Chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. » Et il se rappela quelques regards remplis de dédain, à lui adressés par Madame de la Mole et surtout par les dames, ses amies. Le plaisir de triompher du marquis de Croisenois vint achever la déroute de ce souvenir de vertu. « Que je voudrais qu'il se fâchât !» dit Julien. « Avec quelle assurance je lui donnerais maintenant un coup d'épée ?» Et il faisait le geste du coup de seconde. « Avant ceci, j'étais un cuistre, abusant bassement d'un peu de courage. Après cette lettre, je suis son égal. » « Oui, » se disait-il avec une volupté infinie et en parlant lentement. « Nos mérites, au marquis et à moi, ont été pesés, et le pauvre charpentier du Jura l'emporte. » « Bon, » s'écria-t-il, « voilà la signature de ma réponse trouvée. N'allez pas vous figurer, mademoiselle de la Mole, que j'oublie mon état. Je vous ferai comprendre et bien sentir que c'est pour le fils d'un charpentier que vous trahissez un descendant du fameux Guy de Croisenois qui suivit Saint-Louis à la croisade. » Julien ne pouvait contenir sa joie. Il fut obligé de descendre au jardin. Sa chambre, où il s'était enfermé à clef, lui semblait trop étroite pour y respirer. « Moi, pauvre paysan du Jura !» se répétait-il sans cesse. « Moi, condamné à porter toujours ce triste habit noir ! Hélas, 20 ans plus tôt, j'aurais porté l'uniforme comme eux. Alors, un homme comme moi était tué, ou général à 36 ans. » Cette lettre qu'il tenait serrée dans sa main lui donnait la taille et l'attitude d'un héros. Maintenant, il est vrai, avec cet habit noir, à 40 ans, on a 100 000 francs d'appointement et le cordon bleu, comme monsieur l'évêque de Beauvais. « Eh bien, » se dit-il en riant comme Méphistophélès, « j'ai plus d'esprit qu'eux. Je sais choisir l'uniforme de mon siècle. » Et il sentit redoubler son ambition et son attachement à l'habit ecclésiastique. Que de cardinaux nés plus bas que moi et qui ont gouverné. Mon compatriote Granvelle, par exemple. Peu à peu, l'agitation de Julien se calma. La prudence surnagea. Il se dit, comme son maître Tartuffe, dont il savait le rôle par cœur. Je puis croire ces mots. Un artifice honnête. Je ne me fierai point à des propos si doux, qu'un peu de ces faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. » Tartuffe, acte 4, scène 5. Tartuffe aussi fut perdu par une femme, et il en valait bien un autre. Ma réponse peut être montrée. À quoi nous trouvons ce remède, ajouta-t-il, en prononçant lentement et avec l'accent de la férocité qui se contient, nous la commençons par les phrases les plus vives de la lettre de la sublime Mathilde. Oui, mes 4 laquais de monsieur de Croisenois se précipitent sur moi et m'arrachent l'original. Non, car je suis bien armée et j'ai l'habitude, comme on sait, de faire feu sur les laquais. Eh bien, l'un d'eux a du courage, il se précipite sur moi. On lui a promis 100 napoléons. Je le tue ou je le blesse, à la bonne heure, c'est ce qu'on demande. On me jette en prison fort légalement. Je parais en police correctionnelle et l'on m'envoie avec toute justice et équité de la part des juges tenir compagnie dans Poissy à messieurs Fontan et Magalon. Là, je couche avec 400 gueux pêle-mêle et j'aurai quelque pitié de ces gens-là. S'écria-t-il en se levant impétueusement. « En ont-ils pour les gens du tiers-état quand ils les tiennent ?» Ce mot fut le dernier soupir de sa reconnaissance pour monsieur de la Mole, qui, malgré lui, le tourmentait jusque-là. « Doucement, messieurs les gentilshommes, je comprends ce petit trait de machiavélisme. L'abbé Mathion ou monsieur Castanède du séminaire n'auraient pas mieux fait. Vous m'enlèverez la lettre provocatrice et je serai le second homme du colonel Caron à Colmar. Un instant, messieurs. Je vais envoyer la lettre fatale en dépôt dans un paquet bien cacheté à M. l'abbé Pirard. Celui-là est honnête homme janséniste, et en cette qualité, à l'abri des séductions du budget. Oui, mais il ouvre les lettres. C'est à Fouquet que j'enverrai celle-ci. Il faut en convenir, le regard de Julien était atroce, sa physionomie hideuse. Elle respirait le crime sans alliage. C'était l'homme malheureux en guerre avec toute la société. « Aux armes !» s'écria Julien. Et il franchit d'un saut les marches du perron de l'hôtel. Il entra dans l'échoppe de l'écrivain du coin de la rue. Il lui fit peur. « Copier !» lui dit-il en lui donnant la lettre de Mademoiselle de la Mole. Pendant que l'écrivain travaillait, il écrivit lui-même à Fouquet. Il le priait de lui conserver un dépôt précieux. Mais se dit-il en s'interrompant. « Le cabinet noir à la poste ouvrira ma lettre et vous rendra celle que vous cherchez. » « Non, messieurs. » Il alla acheter une énorme Bible chez un libraire protestant, cacha fort adroitement la lettre de Mathilde dans la couverture, fit emballer le tout et son paquet partit par la diligence adressé à un des ouvriers de Fouquet, dont personne à Paris ne savait le nom. Cela fait, il rentra, joyeux et leste, à l'hôtel de la Mole. « À nous, maintenant » s'écria-t-il en s'enfermant à clef dans sa chambre et jetant son habit. « Quoi, mademoiselle ? » écrivait-il à Mathilde. « C'est mademoiselle de la Mole qui, par les mains d'Arsène, laquais de son père, fait remettre une lettre trop séduisante à un pauvre charpentier du Jura, sans doute pour se jouer de sa simplicité. » Et il transcrivait les phrases les plus claires de la lettre qu'il venait de recevoir. La sienne eût fait honneur à la prudence diplomatique de Monsieur le Chevalier de Beauvoisis. Il n'était encore que 10 heures. Julien, ivre de bonheur et du sentiment de sa puissance, si nouveau pour un pauvre diable, entra à l'Opéra Italien. Il entendit chanter son ami Geronimo. Jamais la musique ne l'avait exalté à ce point. Il était un dieu !